le temps de l'Avent nous prépare à célébrer Noël, la naissance du Sauveur. Vous voyez, le chemin de lumière avance dimanche après dimanche. En réalité, depuis le premier Noël, nous ne célébrons plus la naissance du Sauveur. Il est né. Nous attendons sa venue. Noël n'est pas la fête d'anniversaire du petit Jésus. L'Avent, qui signifie en latin l'advenu, c'est un message d'alerte qui nous oriente ensemble vers l'espérance. Celle du jour de Jésus le Christ, pour reprendre les mots de l'apôtre Paul ici. Alors, la Bible nous offre bien des façons de penser et de préparer ce jour du Christ, cette venue. On peut la penser théologiquement, avec un grand renfort de textes apocalyptiques dont la Bible contient. On peut aussi méditer cette venue spirituellement, avec des paroles de Jésus comme « veillez et priez ». Mais la façon la plus exigeante, à mon sens, de vivre l'espérance chrétienne dans le Nouveau Testament, c'est l'engagement dans l'Église. Je vais essayer de le montrer ce matin. L'Église locale, c'est le laboratoire de l'espérance. C'est le lieu où nous sommes appelés à fabriquer ensemble, concrètement, dans la sueur et les larmes quelquefois, l'espérance du jour de Christ. C'est dans les relations interpersonnelles, dans la vie de prière, dans l'écoute communautaire de la Bible, dans l'entraide, la confiance réciproque, que nous apprenons ce qu'attendre et espérer veut dire. L'espérance met les mains dans le cambouis de l'existence. Et ce début d'épître nous raconte comment, dans l'église de Philippe, on préparait le jour de Christ, le jour du Christ. Eh bien, on le faisait en vivant l'évangile les uns avec les autres au quotidien. Et en particulier entre les membres de la communauté et aussi avec les responsables de l'Église. Vous l'avez sûrement senti à la première lecture, Paul est un pasteur content, il est un pasteur satisfait de ses paroissiens. Et Paul insiste vraiment à toutes les lignes quasiment pour dire qu'il est satisfait de tous ses paroissiens. Ce qui me paraît être un fait extraordinaire quand même. Je n'ai pas fait d'enquête dans les églises libres pour connaître le niveau de satisfaction des pasteurs vis-à-vis de leurs assemblées. Mais je serais bien étonné que l'éloge soit aussi puissant que celui que Paul rend ici aux Philippiens. À part à Pessac. Évidemment. Et réciproquement, ce qui est tout aussi étonnant, c'est cette église de Philippe qui semble avoir été très satisfaite de son pasteur Paul. Alors je me suis interrogé sur ce que signifiait cette satisfaction qui émane de cette lecture. Et c'est très difficile à établir en réalité. Quand nous disons que nous sommes satisfaits de quelque chose, de quoi parle-t-on? Eh bien, on parle de ressenti. Et donc, ce que nous disons est lié à l'affection. Pour l'un, une bonne église ou un bon pasteur, ce sera un lieu ou une personne avec laquelle je vais pouvoir tisser des liens d'affection. essentiel. Sans cela, rien de possible. Pour d'autres, plus méfiants peut-être à l'égard des sentiments, parce qu'ils s'y sont fait mal peut-être un jour, l'affection ne sera pas un critère décisif de satisfaction. Le degré de satisfaction sera plutôt indexé sur l'importance et la qualité des projets menés dans l'Église, sur la qualité de l'enseignement théologique, sur les œuvres sociales engagées, la qualité de la louange, que sais-je encore, sur le nombre de participants au culte, la liste est infinie. Et il est vrai que l'affection peut devenir un piège dans les relations. On peut se laisser aveugler par les qualités d'une personne, d'un pasteur ou d'une église. Et puis soudain se laisser aveugler par ses défauts de la même personne, de la même église. Après avoir tout aimé, tout accepté, tout donné, on peut se mettre à tout soupçonner, à tout rejeter, à tout reprendre. C'est l'affection, quelquefois, qui tourne en son contraire. Alors, quelle est la bonne formule pour vivre l'Évangile dans l'Église et se préparer ensemble au jour du Christ Jésus? Je ne vais pas vous donner une recette parce que je pense qu'il n'y en a pas. Pas de vérité indiscutable sur cette manière de procéder. Mais j'avoue quand même, là je parle très personnellement, j'avoue quand même que malgré le caractère imprévisible et parfois inquiétant de la relation affective, je ne m'en suis jamais lassé ni cherché à m'en protéger. Je ne conçois pas ma vocation pastorale sans affect, sans sentiment, sans émotion. Cela m'a valu les moments les plus forts et les plus terribles de ma vie de pasteur. Et je vois que ce fut la même chose pour Paul. Parce que, souvenez-vous, ces années de ministère à l'église de Corinthe ont été pour lui un véritable cauchemar. Il y était considéré comme un petit pasteur sans charisme. On le comparait à d'autres plus talentueux, pasteur Apollos en particulier, très prisé à Corinthe. On le comparait à d'autres encore, et pourtant, malgré ce véritable chemin de croix que fut pour le pasteur Paul l'église de Corinthe, il n'hésite pas à leur écrire en les appelant les saints qui sont à Corinthe. Comme s'il s'interdisait de juger d'une manière définitive l'église du Christ. Et avec l'église de Philippe, où Paul semble avoir filé le parfait amour pastoral, eh bien, il semble que les choses n'aient pas été toujours aussi faciles qu'il n'y paraît. L'église de Philippe n'était pas la paroisse idéale. Il y avait en son sein des prédicateurs qui ne pouvaient pas souffrir l'apôtre Paul. Il y avait des divisions. Il y avait des oppositions. Et même des enseignants que l'apôtre Paul n'hésitera pas, je cite, à traiter de chiens et d'ennemis de la croix. C'est quand même pas des petites paroles, hein, entre serviteurs de Dieu. D'où vient alors cette louange dithyrambique de Paul sur la paroisse de Philippe? Étonnant. Il y a une première réponse qui est très matérielle, très belle, qu'il serait faussement spirituel de sous-estimer ou d'écarter de la main. La paroisse de Philippe s'est portée très généreusement au soutien de l'apôtre Paul. Paul a vu dans cette participation financière à son l'apostolat, son ministère pastoral, une expression simple et vraie de la grâce de Dieu, grâce reçue et partagée. C'est ça. Pour Paul, préparer le jour du Christ, c'est commencer par donner à la collecte. Mais il y a une deuxième explication que je commence seulement à comprendre au moment où s'approche pour moi la soixantaine. Même si Paul est encore capable de répartir, dans cette épître, de répartir cinglante et musclée, on ne se refait pas. Il semble quand même ici plus apaisé, moins batailleur. Et cela pour une simple raison. Paul a vieilli. Et l'âge l'a sensiblement bonifié. Comme un bon Bordeaux. Entre le ministère à Corinthe, où il sortait le lance-flamme à la moindre hérésie, et celui où, en prison, probablement à Rome, il écrit à Philippe, il s'est écoulé un apostolat, une vie de service. Il y a eu pour Paul le temps où tout était hyper important, et le temps où il a appris à classer par ordre d'importance les choses premières, les choses secondes. Oui, vient le temps où l'on découvre enfin la vertu d'espérance et la patience. Alors, pas question de lâcher quoi que ce soit sur le fond. Paul ne se résoudra jamais à voir le légalisme dans l'Église regagner du terrain sur la liberté de l'Évangile. Jamais. Dans les églises de Turquie, en particulier. Mais il cessera de faire un drame de toutes les misères de l'Église. Et cela pour une seule et unique raison, et je trouve cela tellement beau. Avec l'âge, on prend conscience qu'au-delà de nos obsessions à vouloir maîtriser, à vouloir sauver l'Église, de tous ces maux, de ces inconséquences, de ces hérésies, de ces sommeils, on découvre émerveillé que Jésus, le Christ, y travaille activement pendant que moi-même je dors ou que je pense à autre chose. Toujours, il est là. Il travaille pour son Église. Malgré les pasteurs, malgré les paroissiens, il travaille pour son Église malgré les étroitesses des uns et les inconséquences des autres, malgré les crises d'autorité des uns et le laxisme des autres, malgré les hérésies des uns et le conservatisme des autres. Entendez bien que ceci n'est pas un appel à nous désinvestir, à prendre de la distance avec les affaires de l'Église. C'est simplement un appel à relativiser l'importance de nos combats. Nous ne sommes pas les sauveurs de l'Église. On se souvient qui reste le Seigneur de l'Église, même en ses heures les plus sombres. Et on apprend que ce n'est pas avec ses colères qu'on fait avancer le royaume de Dieu. On apprend aussi que l'humour est une meilleure thérapie relationnelle que l'exigence. Si Paul regarde si paisiblement l'église de Philippe, c'est bien parce qu'il a pris des cheveux blancs et avec eux beaucoup de sagesse. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Un temps et un âge pour toute chose également, dans notre manière de vivre l'Église, l'Évangile et ses défis, et de préparer ensemble le jour du Christ. L'Église a besoin de la fougue de la jeunesse, et il faut lui pardonner ses intransigeances, ses empressements, ses inconséquences, son idéalisme communautaire ou son rapport à la vérité, quelquefois un peu exclusif, totalitaire, maladroit, que sais-je. Mais sa puissance d'entraînement, sa vitalité, elles sont irremplaçables. Paul fut aussi, ce jeune converti plein de zèle, cet implanteur fou, ce théologien radical, intransigeant. Mais la grâce de Dieu lui a permis de découvrir en chemin la bienveillance et la joie que procure l'amitié entre frères et sœurs au sein de l'Église. Peut-être faut-il entendre ici, frères et sœurs, une exhortation à vivre pleinement son âge. L'âge est une vocation. Les vieux qui se mettent à parler comme les moins de 15 ans sur les réseaux sociaux, c'est affligeant. Les jeunes qui veulent donner des leçons de morale, de sagesse, d'équilibre, c'est ennuyeux à mourir. Mais avec les lunettes de l'affection, on arrive toujours à se reconnaître, c'est-à-dire à faire un nouveau chemin de connaissance. Se reconnaître, c'est qu'on s'est raté une fois et on revient pour se connaître à nouveau. On n'en a jamais fini. Faire route commune vers le jour de Christ, jeunes et vieux, connaissez le cantique. À eux tous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, écrit Paul, à eux tous. La grâce et la paix sont pour tous dans l'Église, sans exception, même pour les responsables, les diacres et les évêques. Vous vous rendez compte? Même pour les pasteurs, vous vous rendez compte de l'immensité et la magnanimité de la grâce de Dieu? Au fond, derrière ce passage, on va dire que c'est un passage de la brosse à reluire sur tous les acteurs de la vie de l'Église de Philippe. Derrière ça, c'est un autre que Paul loue, celui qui a commencé en vous une œuvre excellente en poursuivre à l'achèvement. Qui? Qui ça? Celui? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le Christ Jésus, nul autre que lui n'est loué dans l'Église. La louange de Paul ici n'est pas une abstraction, c'est pas une prière désincarnée. Paul, un peu comme dans l'Ecclésiaste, très très enraciné dans la réalité, Paul reconnaît la présence du Christ dans la présence de tous ses frères et ses sœurs dans l'Église, au quotidien. Et j'ai envie de conclure en vous redisant à ma manière ces paroles d'amitié de Paul. Oui, à vous, Église du Christ, réunie en ce deuxième dimanche de l'Avent à Pessac. Je rends grâce quand je pense à vous pour votre générosité et votre participation à l'Évangile. C'est ainsi que la grâce du Christ est à l'œuvre ici et qu'elle nous prépare au jour de Christ qui vient. Amen.